إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, on commence aujourd'hui la lecture et l'étude d'un livre de fiqh, un livre de jurisprudence, intitulé منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين, que l'on pourrait traduire par la voie des itinérants et la clarification du fiqh en religion. Ce livre a été écrit par le cheikh, l'éminent savant Abdurrahman ibn Nasir al-Si'di, rahimahullah ta'ala. Ce cheikh est un grand savant de la communauté du siècle dernier qui a laissé derrière lui de nombreux ouvrages, et parmi les plus connus son tafsir, tafsir al-Si'di, qui est très répandu au sein de la communauté. Et parmi ses ouvrages, il y a ce livre de jurisprudence auquel le cheikh rahimahullah ta'ala donnait une grande importance. Et ce livre a une petite histoire. En effet, certains des élèves du cheikh ont mentionné que le cheikh l'a écrit dans le but de réunir les points essentiels du fiqh aux jeunes étudiants. Et ce car, en l'an 1359 de l'Hégire, un certain nombre de jeunes ont terminé l'école primaire dans la ville de l'Unayza, la ville du cheikh. Et à cette époque, il n'y avait aucun institut, il n'y avait pas de collège, ni autre école dans la ville. C'est-à-dire que dans la ville du cheikh, les plus hautes études que pouvait faire l'enfant s'arrêtaient à l'école primaire. Et ils ne pouvaient pas se rendre dans les grandes villes dans lesquelles il y avait d'autres écoles, étant donné leur jeune âge. Et à ce moment-là, le cheikh, rahimahullah ta'ala, avait une bibliothèque qu'il venait de finir de construire, dans laquelle il enseignait la science religieuse. Il a donc organisé des cours pour ses enfants, qui étudiaient notamment la science de la croyance, comme le livre Les Trois Fondements ou d'autres livres semblables. Ils étudiaient dans le hadith, les 40 hadiths d'An-Nawawi. Ils étudiaient dans la grammaire à la Jurumiyya. Mais dans le fiqh, le shaykh trouvait que les ouvrages présents ne pouvaient pas être étudiés par ses enfants. Pour deux raisons principales. Premièrement, car dans la plupart des écrits qui étaient présents, les auteurs ne sortaient pas de l'avis du madhhab de l'imam Ahmed. Et la deuxième raison est qu'il jugeait que les termes employés dans ces écrits étaient trop difficiles pour être compris par un étudiant débutant. Le cheikh rahimahullah ta'ala a donc décidé d'écrire ce livre qui se distingue par sa simplicité, mais aussi par le fait que le cheikh rahimahullah ta'ala y a réuni les plus importantes questions religieuses liées à la science du fiqh. Et comme on l'a mentionné, il a écrit ce livre pour les étudiants débutants, pour de jeunes enfants. Ceci nous montre donc que c'est un livre adéquat pour nous, pour commencer à apprendre la jurisprudence. C'est donc pour cela que j'ai choisi que l'on lise ce livre, Inch'Allah ta'ala. Le cheikh rahimahullah ta'ala a commencé en disant « Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in » Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et c'est de lui que nous implorons l'aide. Comme on l'a mentionné dans d'autres cours, les gens de science ont pour habitude de commencer leurs ouvrages par la basmala, qui est le fait de dire « Bismillahirrahmanirrahim ». Et ce, à l'exemple du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui commence par la basmala, et dont l'ensemble des sourates commence par celle-ci, à l'exception de sourate al-Tawbah. Mais également, à l'exemple du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui avait pour habitude, lorsqu'il ordonnait d'écrire une lettre qu'il envoyait à des rois ou autres, de commencer par la basmala, par bismillahirrahmanirrahim. C'est donc une sunna confirmée du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de commencer les écrits ainsi, et les gens de science se sont habitués à cela. Il dit ensuite, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh. Louange à Allah, nous le louons, nous implorons son aide, nous implorons son pardon, et nous nous repentons à lui. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre le mal de nos propres personnes et de nos mauvaises actions. Man yahdillah fala mudilla lahu. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Et j'atteste que nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah, seul sans associé. Et j'atteste que Muhammad est son serviteur et messager, sallallahu alayhi wa sallam. Cette introduction que l'auteur a mentionnée est appelée Khutbatul Hajr. Et c'est celle qui est venue dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu. Ensuite, il a dit Amma ba'd, qui est une expression de transition et qui a été utilisée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on le retrouve dans de nombreux hadiths. Il dit ensuite فهذا كتاب مختصر في الفقه جمعت فيه بين المسائل والدلائل. Ceci est un livre concis dans le fiqh, dans la jurisprudence islamique, dans lequel j'ai réuni entre les questions et les preuves. Donc comme on a dit, le shaykh rahimahullah ta'ala a voulu que ce livre soit un livre concis. C'est-à-dire que ce n'est pas un livre développé dans lequel il a abordé l'ensemble des questions de jurisprudence. Il dit donc, ceci est un livre concis dans le fiqh. C'est-à-dire que ce livre concerne les questions de jurisprudence seulement. Il ne va pas traiter dedans de la aqida ou d'autres sujets religieux, mais seulement de ce qui a trait au fiqh, c'est-à-dire la jurisprudence islamique. Et la jurisprudence islamique, al-fiqh, il se divise en deux catégories principales. La première catégorie est ce qui concerne al-ibadat, ce qui concerne les adorations comme la prière, la zakat, le jeûne, etc. C'est-à-dire tout ce qui est du domaine de la pratique cultuelle, c'est-à-dire la relation entre le serviteur et son seigneur, subhanahu wa ta'ala. La deuxième catégorie de la science du fiqh, c'est ce qui concerne ce que l'on appelle al-mu'amalat, les règles relatives aux relations entre les individus, que ce soit sur le plan social ou sur le plan économique, comme par exemple ce qui est lié aux ventes, aux achats, au droit familial, au mariage, au divorce, et ainsi de suite. Et le but de ces règles est d'organiser les relations des individus entre eux dans la société. Car la religion de l'islam est une religion complète qui encadre tous les domaines de la vie. Le Cheikh rahimahullah ta'ala dit donc qu'il a écrit ce livre, que c'est un livre concis, et qui traite du fiqh, de la jurisprudence. Il va donc aborder ces deux grands sujets qui concernent les adorations, mais aussi les règles relatives aux relations entre les individus. Quant à nous, dans notre étude, comme cela a été annoncé, on ne lira pour l'instant que les chapitres liés aux règles de la purification et de la prière. Puis, si Allah subhanahu wa ta'ala nous le permet, nous continuerons peut-être l'étude des autres chapitres de ce livre, incha'Allah ta'ala. Le shir dit ensuite, j'ai réuni dans celui-ci entre les questions et les preuves. Les questions, c'est-à-dire les règles de jurisprudence, leur jugement. Et les dala'il, c'est-à-dire les preuves, les textes qui te démontrent les jugements sur les différentes questions de fiqh qui sont abordées dans ce livre. Donc contrairement à d'autres livres de fiqh, contrairement à d'autres livres de jurisprudence, le shir rahimahullah ta'ala a joint dans celui-ci les preuves. C'est-à-dire que souvent il va mentionner des textes du Coran et des textes de la Sunna concernant les jugements et les règles qu'il a mentionnées. Ensuite il dit rahimahullah, وَاقْتَصَرْتُ فِيهِ عَلَى أَهَمِّ الْأُمُورِ وَأَعْظَمِهَا نَفْعًا. Et je me suis limité dans celui-ci aux choses les plus importantes et les plus profitables. لِشِدَّةِ الضَّرُورَةِ إِلَى هَذَا الْمَوْضُوعِ, étant donné la grande nécessité de ce sujet. Comme on a dit, le Cheikh rahimahullah ta'ala a voulu que ce livre reste simple et concis, et ce afin d'être accessible aux jeunes et aux débutants. Il n'a donc pas développé ni mentionné tous les points de la jurisprudence, mais seulement ceux dont chacun d'entre nous a besoin dans sa vie et dans son quotidien. Il dit ensuite, rahimahullah, وَكَثِيرًا مَا أَقْتَصِرُ عَلَى النَّصِّ إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين. Je me suis souvent limité à la mention du texte, la mention du nas, si le jugement est clair dans celui-ci. Donc lorsque dit le texte, un nas, on vise par cela les textes du Coran et de la Sunna. C'est cela que le Cheikh rahimahullah ta'ala a voulu dire ici. C'est-à-dire que parfois il va mentionner simplement un verset, ou un hadith sans faire de commentaire, car le jugement qu'il veut nous démontrer est clair dans le verset ou dans le hadith, comme on le verra tout au long de l'étude de ce livre, inshallah ta'ala. Et pourquoi a-t-il fait cela? Pourquoi s'est-il limité au texte? Parfois, il dit, afin d'en faciliter la mémorisation et la compréhension pour les débutants. Ensuite, le shaykh, rahimahullah ta'ala, nous dit une chose très importante et il dit, لأن العلم معرفة الحق بدليله. Et ce, car la science est la connaissance de la vérité par sa preuve. C'est pour cela qu'il a mentionné les textes du Coran et de la Sunna. Car la science, c'est la connaissance de la vérité par sa preuve. Lorsque tu connais une question religieuse et que tu connais sa preuve tirée du Coran et de la Sunna, alors ceci est une science authentique. Celui qui prend connaissance d'une question religieuse, il se doit d'interroger au sujet de sa preuve. Et ce afin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec science et clairvoyance. Et que tu sois apaisé et convaincu dans ce que tu accomplis comme adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que dans tes relations que tu entretiens avec les gens. Si tous tes actes sont basés pour des preuves, alors tu seras apaisé, incha'Allah ta'ala. Et telle est la science authentique, le fait de connaître les jugements accompagnés de leurs preuves. Le shir rahimahullah ta'ala a ensuite défini le fiqh en disant « وَالْفِقْهُ مَعْرِفَةُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. Il dit, rahimahullah, le fiqh est la connaissance des règles ou des jugements religieux liés à la pratique, liés aux œuvres, tirées de leurs preuves du Coran, de la Sunna, de l'unanimité et de l'analogie authentique. Donc cette définition qu'il a donnée est la définition du fiqh dans la terminologie religieuse. Mais avant d'expliquer cela, il est nécessaire pour nous de connaître le sens du mot fiqh dans la langue arabe. Le mot fiqh, il vient du verbe faqiha, qui signifie le fait de comprendre ou de s'instruire. Et c'est en ce sens que ce mot est venu dans le Coran, comme dans le verset 91 de Surat Hud, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « قَالُوا يَا شُعَيْبْ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ » Ils dirent « Oh Shu'aib, nous ne comprenons pas grand-chose de ce que tu dis. » Le fiqh, dans la langue arabe, c'est donc la compréhension. Et dans la terminologie religieuse, il est défini, comme l'a mentionné l'auteur, c'est la connaissance des règles religieuses, des jugements religieux, c'est-à-dire les règles qui sont tirées de la charia de l'islam, la législation islamique, liées aux œuvres, à la pratique. C'est-à-dire que le fiqh, il ne concerne pas les fondements de la religion. Il ne concerne pas ce qui est lié à la croyance, au tawhid, et ainsi de suite. Mais il concerne seulement ce qui est lié à la pratique en termes d'adoration et en termes de relation avec les gens. Ensuite, il dit, rahimahullah, tirer de leurs preuves. C'est-à-dire que le fiqh est basé sur des preuves. Les savants, ce n'est pas eux qui ont inventé ces règles de jurisprudence. Mais ils les ont tirées des preuves. Et les preuves, il nous dit, rahimahullah, quels sont? Du livre, de la sunna, de l'unanimité et de l'analogie authentique. Le livre, c'est-à-dire le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran al-Karim. La sunna, c'est-à-dire la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qui est confirmé parmi ses paroles, ses actes et ses approbations. L'unanimité al-Ijma', c'est ce sur quoi est unanime la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est une preuve. Lorsque la communauté est unanime sur une chose, ceci nous prouve que cette chose est vérité. Car la communauté ne peut pas être unanime sur une erreur. Et le quatrième type de preuve qu'il a mentionné, c'est al-qiyas, c'est-à-dire l'analogie. Et il a précisé al-qiyas ou sahih, l'analogie authentique. Et l'analogie, elle désigne le fait de prononcer un jugement sur une chose en se référant au texte qui est la preuve du jugement sur une autre chose qui est semblable à elle sur certains points. Et les détails à ce sujet, ils sont vus dans les livres de Usul al-Fiqh, les fondements de la jurisprudence. Ceux-ci sont donc les quatre sources du fiqh en islam. Le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, al-ijma', l'unanimité, et al-qiyas al-sahih, l'analogie authentique. Ensuite, le shaykh rahimahullah wa ta'ala a dit, toujours nous décrivant la méthode sur laquelle il a cheminé dans ce livre. وأقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل. Et je me limite aux preuves connues par peur d'être trop long. C'est-à-dire que le cheikh, rahimahullah ta'ala, il se limite aux preuves authentiques. Il n'a pas mentionné de nombreuses preuves sur les questions qu'il a exposées dans ce livre. Car, comme on a dit, son objectif était d'être concis pour les jeunes et pour les débutants. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَإِذَا كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ خِلَافِيَّةً اِقْتَصَرْتُ عَلَى الْقَوْلِ الَّذِي تَرَجَّحَ عِنْدِي تَبَعًا لِلْأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ Et si la question est sujette à divergence, comme vous le savez, dans la jurisprudence, il y a certaines questions qui ne font pas unanimité, et au sujet desquelles les savants ont divergé. Donc le shir, rahimahullah ta'ala, il nous dit que concernant cette question, il s'est limité à l'avis qui est prépondérant pour lui, et ce en se basant sur les preuves religieuse. Donc tous les sujets que le cheikh rahimahullah ta'ala va aborder, il ne va pas nous mentionner les différents avis dans ceci. Mais il s'est limité à un seul avis, qui est celui qu'il a jugé le plus authentique et le plus juste en se basant sur les preuves religieuses. Donc généralement, lors de l'explication, on ne sortira pas de ce qu'a mentionné le cheikh rahimahullah ta'ala, sauf sur certaines questions lorsque cela sera nécessaire. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala, dans cette introduction, il nous a exposé ce que l'on appelle al-ahkam ul-khamsa, que l'on peut traduire par les cinq jugements. Et ceci concerne en réalité la science des fondements de la jurisprudence. Lorsqu'on étudie la science des fondements de la jurisprudence, on étudie ces règles et ces jugements qui sont al-ahkam ul-khamsa, les cinq jugements, qui sont al-wajib, l'obligatoire, al-haram, l'interdit, al-makruh, le détestable, al-mustahab, le recommandé, al-mubah, le permis. Et ceci sont des mots qui, lorsque tu vas étudier le fiqh, ils vont revenir souvent. C'est pour cela que le shaykh, rahimahullah ta'ala, a jugé utile de nous les définir dans l'introduction, afin que lorsque tu vas lire ou entendre, ceci est obligatoire, ceci est interdit, ceci est détestable, ceci est recommandé, ceci est permis, que tu comprennes ce que cela signifie. Il a donc dit, rahimahullah, al-wajib, وَهُوَ مَا أُثِيبَ فَاعِلُهُ وَعُوقِبَ تَارِكُهُ L'obligatoire, al-wajib, le shir l'a défini comme étant ce dont l'auteur est récompensé et est châtié celui qui le délaisse. Et en réalité, cette définition elle a besoin d'être précisée. En effet, il est plus précis de dire مَا أُثِيبَ فَاعِلُهُ امْتِثَالًا Le wajib, l'obligatoire, est ce dont l'auteur est récompensé s'il le fait, imtithalan, c'est-à-dire pour se soumettre à Allah, subhanahu wa ta'ala, avec une bonne intention, sincèrement, pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Car il se peut qu'une personne accomplisse certaines obligations, mais ne fasse pas cela pour rechercher la satisfaction d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ni pour se soumettre à lui. Comme est la situation, par exemple, de l'hypocrite. L'hypocrite, il accomplit certaines œuvres qui sont obligatoires, mais il ne les accomplit pas pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Il les accomplit avec un autre objectif que cela. Donc on a dit qu'il est plus précis de dire « مَا أُثِيبَ فَاعِلُهُ امْتِثَالًا » Ce dont l'auteur est récompensé s'il le fait pour se soumettre à Allah. Et concernant la deuxième partie de la définition « وَعُوقِبَ تَارِكُهُ » et « châtier celui qui le délaisse » il est plus précis et plus juste aussi de dire « وَيَسْتَحِقُّ الْعِقَابَ تَارِكُهُ » et « celui qui le délaisse mérite le châtiment ». Pourquoi on dit seulement « il mérite » et non pas « il est châtié » Car Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit dans son livre? إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé, mais il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Ce verset, il nous prouve quoi? Il nous prouve qu'il se peut qu'une personne délaisse certaines obligations, mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne la châtie pas. Il est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut, il le pardonne, et si Allah veut, il le châtiera. C'est pour cela que la définition plus précise et plus juste est de dire l'obligatoire, al-wajib, est ce dont l'auteur est récompensé s'il le fait pour se soumettre à Allah, et celui qui le délaisse mérite le châtiment. Il le mérite, mais si Allah veut, subhanahu wa ta'ala, il le pardonnera. Le deuxième jugement, c'est al-haram. Il dit, rahimahullah, wal-haramu diddu. Et le haram, l'interdit, est son contraire, c'est-à-dire le contraire du wajib. Donc si c'est le contraire du wajib, comment on va le définir? On va le définir en disant que c'est ce pourquoi et récompenser celui qui le délaisse pour se soumettre à Allah. Le haram, c'est ce pourquoi est récompensé celui qui le délaisse pour se soumettre à Allah. Et celui qui le commet mérite le châtiment. Telle est la définition de l'interdit. Celui qui délaisse, par exemple, la consommation de boissons enivrantes, qui délaisse la consommation de viande de porc, qui délaisse le riba, l'intérêt usuraire, qui délaisse la médisance, la calomnie, le mensonge, et qui délaisse cela pour se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, non pas pour d'autres objectifs. Il délaisse cela pour obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors celui-ci, il est récompensé, inshallah ta'ala. Et ça, c'est important de penser à cela lorsque tu délaisses les interdits. Tu peux être récompensé en les délaissant, à condition que tu les délaisses pour Allah subhanahu wa ta'ala, par crainte de son châtiment et par espoir de sa récompense. Tu ne les délaisses pas par peur des gens, parce que c'est honteux de commettre tel ou tel péché, ou parce que cela ne te donne pas envie. Mais il est important que tu les délaisses avec une bonne intention, pour Allah subhanahu wa ta'ala, afin d'en obtenir la récompense. Et celui qui le commet, celui qui commet l'interdit, alors il mérite le châtiment. C'est-à-dire qu'il est dans le péché. Et si Allah veut, il le pardonnera, et si Allah veut, il le châtiera. C'est-à-dire s'il meurt sur cela sans s'être repenti. Et bien sûr, s'il se repent de son vivant, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui efface ses péchés. Ensuite, il a dit, rahimahullah ta'ala, wal makruh wa huwa ma uthiba tarikuh wa lam yu'aqab fa'iluh. Al makruh, c'est ce que l'on traduit souvent par le détestable. Le shir l'a défini comme étant ce pourquoi est récompensé celui qui le délaisse et n'est pas châtié celui qui le fait ou n'est pas sanctionné celui qui le fait. Donc comme pour les définitions précédentes, il est plus juste de dire c'est ce pourquoi est récompensé celui qui le délaisse pour Allah subhanahu wa ta'ala. Les choses détestables, ce sont les choses qu'il convient aux musulmans de délaisser mais qui ne sont pas interdites, qui ne sont pas haram. C'est-à-dire que si tu les commets, alors tu n'es pas de péché. Mais si tu les délaisses pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu es récompensé. Et lorsqu'on dit qu'une chose est détestable, cela ne signifie pas que le musulman peut se laisser aller dans l'accomplissement de cette chose. Car certaines personnes, lorsqu'ils apprennent qu'une chose est seulement détestable et seulement makruh, et n'est pas haram, alors ils disent c'est bon, je peux le faire autant que je veux. Or tu dois savoir que le fait de négliger cela, et de commettre de nombreuses choses détestables, ceci peut te conduire petit à petit à quoi? À commettre des choses qui sont interdites. C'est pour cela que le musulman doit s'appliquer à délaisser les choses qui sont détestables, afin de se préserver dans l'interdit et obtenir pour son délaissement de ces choses la récompense d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite, rahimahullah ta'ala, la quatrième, wal masnoun dhidduh. Et le masnoun, ce qui équivaut au mustahab, ce qui est recommandé, est son contraire, c'est-à-dire c'est le contraire du détestable. C'est-à-dire qu'on le définit comment? On le définit en disant, c'est ce dont l'auteur est récompensé s'il le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour se soumettre à Allah, et celui qui le délaisse n'est pas sanctionné, n'est pas châtié. Telle est la définition du mustahab. C'est-à-dire que celui qui fait une chose qui est recommandée, comme par exemple les prières surérogatoires, les rawatib, la prière de nuit et la prière du witr, des aumônes surérogatoires, le jeûne du lundi et du jeudi. S'il fait cela, sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, alors il est récompensé. Car ceci sont des œuvres qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Mais s'il les délaisse, non pas par mépris, mais parce qu'il n'a pas la force, qu'il n'a pas les capacités ou autre, alors il n'est pas sanctionné pour cela, il n'a pas de péché. Contrairement aux wajib, contrairement aux obligations. Toutefois, il ne convient pas aux musulmans de négliger les œuvres surérogatoires. Mais il convient plutôt de faire des efforts dans la multiplication des œuvres recommandées. Car celles-ci, elles te permettront, bi'idhnillahi ta'ala, d'obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le hadith al-Qudsi, mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. C'est-à-dire que plus tu vas faire d'œuvres surérogatoires, plus tu seras aimé par Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ces œuvres-là, elles sont pour toi comme une muraille de protection contre la négligence de tes obligations. Celui qui est assidu, par exemple, aux prières surérogatoires, au rawatib, il accomplit tout au long de sa journée Les prières surrogatoires qui sont liées aux prières obligatoires. Deux avant le Fajr, quatre avant le Dhuhr, deux après le Dhuhr, deux après le Maghreb, deux après l'Isha. Celui-ci, bi'idhnillah, le fait qu'il soit assidu à ses prières, qui sont surrogatoires, qui sont recommandées, cela va lui permettre, d'autant plus, d'être assidu à ses obligations, d'être assidu aux cinq prières obligatoires. Et si par exemple un jour il lui arrive d'être débordé de travail, d'être surchargé, d'être préoccupé par quelque chose, au point qu'il n'a pas beaucoup de temps pour s'arrêter et prier. Alors, s'il délaisse quelque chose, il ne délaissera que sa prière surrogatoire. Mais il ne délaissera pas sa prière obligatoire. Contrairement à celui qui n'accomplit que ce qui est obligatoire. Alors, il n'a pas cette muraille de protection. Il se peut que l'insouciance, la distraction, le mène à négliger ou à retarder une de ses obligations. Alors que si tu es assidu à ces prières surrogatoires, bi'idhnillah ta'ala, elles seront pour toi une cause pour être assidu et préserver tes prières obligatoires, bi'idhnillah ta'ala. Ensuite, le shaykh rahimahullah ta'ala dit: Wal mubah huwa alladhi fi'luhu wa tarkuhu ala haddin sawa. Et al mubah, c'est le permis, les choses qui sont permises. Et c'est celles dont le délaissement ou l'accomplissement sont semblables. C'est-à-dire que tu fasses cette chose ou que tu ne la fasses pas, tu n'as ni récompense ni péché. À l'exemple du fait de boire, de manger, de dormir, et ainsi de suite, parmi les choses qui sont permises. Si la personne les fait de manière ordinaire, elle n'a ni récompense ni péché. Mais si elles sont accompagnées d'une intention, alors il se peut que la personne soit récompensée. Mais la base est que cette chose était simplement permise et n'était pas liée à une récompense ou à un péché. Ceci sont donc al-ahkam al-khamsa, les cinq jugements qu'il est nécessaire pour le musulman de connaître afin de comprendre ce qui est exposé dans les livres ou les cours de fiqh. Lorsque l'on dit ceci est obligatoire, ceci est interdit, ceci est détestable, ceci est recommandé, ceci est permis. Tu as vu à travers les paroles de Cheikh ce que cela signifie. Enfin, il dit pour terminer cette introduction: وَيَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ أَنْ يَتَعَلَّمَ مِنْهُ أي من الفقه كُلَّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي عِبَادَاتِهِ وَمُعَامَلَاتِهِ وَغَيْرِهَا. Il dit, il est obligatoire pour le mukallaf. Le mukallaf, c'est toute personne pubère et douée de raison. Le mukallaf, c'est toute personne pubère et douée de raison. C'est-à-dire celui qui est responsable. Il est donc obligatoire pour la personne qui est responsable, pubère, douée de raison. D'apprendre de cela, c'est-à-dire de la jurisprudence, tout ce dont il a besoin dans ses adorations, dans ses relations et autres. Dans ses adorations, comme on a dit, la prière, le jeûne, le pèlerinage, l'aumône, et ainsi de suite. Dans ses relations avec les gens. Dans le commerce, le mariage, le divorce, et ainsi de suite. Il est obligatoire pour le musulman d'apprendre de la jurisprudence tout ce dont il a besoin. En effet, tu es mukallaf. Tu es responsable, pubère, doué de raison. Allah subhanahu wa ta'ala t'a donc adressé des ordres et des interdits. Ces ordres, il t'incombe de les accomplir. Et ces interdits, il t'incombe de les délaisser. Toutefois, comment peux-tu connaître ces ordres et ces interdits si tu n'apprends pas la science religieuse? Il est donc obligatoire pour toi d'apprendre l'ensemble de tes obligations religieuses, l'ensemble des règles liées à ta prière, à ta purification, l'ensemble des règles liées à la zakat si tu as de l'argent, l'ensemble des règles liées au jeûne du mois de Ramadan, l'ensemble des règles liées au pèlerinage si tu as les capacités et la possibilité d'accomplir le pèlerinage. Et ainsi de suite. Et il en est de même concernant tes relations. Il est obligatoire que tu apprennes toutes les règles religieuses liées à cela. Si tu souhaites faire du commerce, le commerce, il a des règles en islam. Il t'incombe donc d'apprendre des règles de ton commerce. Comment peux-tu te lancer dans le commerce sans connaître quelles sont les transactions qui sont permises, quelles sont les transactions qui sont interdites, et ainsi de suite. Également, si tu souhaites te marier, alors, il est impératif pour toi d'apprendre les règles du mariage. Qu'est-ce que je dois faire pour que mon mariage soit valide? Comment procéder? Comment adresser ma demande en mariage? Comment faire le contrat de mariage? Quelles sont les conditions qui sont valides? Quelles sont les conditions qui sont invalides? Et puis ensuite, une fois marié, quels sont les droits de l'époux? Quels sont les droits de l'épouse? Quels sont les droits des enfants? Et ainsi de suite, parmi les choses dont le musulman a besoin dans sa vie ici-bas. Il incombe au musulman d'apprendre l'ensemble des règles liées à cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique: l'étude de la science est une obligation pour tout musulman. L'étude de la science est une obligation pour tout musulman. Il y a certaines personnes aujourd'hui qui pensent que l'étude de la science, elle est réservée seulement à une catégorie de personnes en dehors des autres. Ils pensent que c'est réservé aux étudiants, dans les universités, dans les centres d'études et ainsi de suite. Or, l'étude de la science, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que c'est une obligation pour tout musulman. C'est-à-dire la science que tout musulman doit nécessairement connaître, en commençant par la science de la croyance, qui est fondamentale. Mais également dans tes œuvres, dans tes actes, dans ta pratique, tout ce dont tu as besoin parmi les règles de la purification, de la prière, du jeûne, et dans tes relations avec les gens. Ceci est obligatoire pour tout musulman. Tu dois donc faire des efforts dans cela, dans l'apprentissage de la science religieuse, et notamment du fiqh. Car l'instruction en religion fait partie des œuvres les plus méritoires, et c'est un signe de bien. En effet, médite sur le hadith que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a cité pour terminer. Il a dit, qala sallallahu alayhi wa sallam, man yuridillahu bihi khayran, yufaqqihu fid din. Muttafaqun alayh. Celui à qui Allah veut un bien, il l'instruit en religion, lui facilite la compréhension de la religion. Et ce hadith est muttafaqun alayh. Cela signifie rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Donc celui à qui Allah il veut du bien, il lui facilite la compréhension de la religion, l'instruit en religion. Et il n'y a pas de doute que le fait d'être instruit en religion est un grand bien pour le serviteur ici-bas et dans l'au-delà. Car la science religieuse, elle va te permettre d'accomplir tes œuvres de manière valide. Lorsque tu veux faire les ablutions, il est nécessaire pour toi de connaître les règles des ablutions. Sinon, comment tes ablutions pourraient-elles être valides? Si tu ne connais pas les règles, si tu ne connais pas leurs obligations, si tu ne connais pas ce qui invalide les ablutions et ainsi de suite. Il en est de même pour la prière. Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné la prière, mais cette prière, elle a des règles. Elle a des conditions, elle a des piliers, elle a des obligations et ainsi de suite. Si tu ne connais pas cela, que tu ne l'apprends pas, comment peux-tu prier de manière correcte? Si tu souhaites être récompensé pour tes œuvres, il est indispensable que tu les accomplisses de la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala les a légiférées. Et cet objectif ne peut être atteint que par l'apprentissage de la science religieuse. Il est donc obligatoire pour toi, si tu souhaites que tes œuvres soient valides, d'apprendre de ta religion ce qui t'est obligatoire. Parmi les règles de la prière, les règles du jeûne, les règles du pèlerinage, les règles de la zakat si tu as de l'argent, il en est de même concernant tes relations, tout ce dont tu as besoin, afin de connaître ce qu'Allah t'a permis, ce qu'Allah t'a interdit, et ainsi de suite. Et médite sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit en religion. Les gens de science ont dit, cela signifie que celui à qui il ne veut pas de bien, il ne l'instruit pas en religion et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. De même, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de lui demander d'accroître ses connaissances. Il lui a dit, wa qur rabbi zidni ilma. Et dit, ô mon Seigneur, accrois mes connaissances. Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, a dit, selon le sens de sa parole, ceci prouve très clairement le mérite de la science. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui demander d'accroître autre que ses connaissances. Il n'a pas ordonné de demander d'accroître ses biens de ce bas monde ou autre parmi les choses. Mais il lui a seulement ordonné de demander d'accroître ses connaissances. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé les assises dans lesquelles on apprend la science profitable, la science religieuse. Il les a appelées les jardins du paradis. C'est-à-dire que ces assises, les assises de science, ce sont des jardins du paradis. Cela te démontre le mérite de la science, le mérite de l'apprentissage de la science religieuse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que les savants sont les héritiers des prophètes, alayhi salatu wa sallam. Tout ceci nous démontre le mérite de l'apprentissage de la science religieuse, et notamment la science du fiqh, la science de la jurisprudence, qui te permettra d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec science et clairvoyance, et que tes œuvres soient bonnes et agréées d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a donc terminé avec l'introduction du shaykh, rahimahullah ta'ala, et on commencera demain, bi'inillahi ta'ala, le livre de la purification. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous, et non pas contre nous, au jour de sa rencontre. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum.